ToraBox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un enseignement de
Madame Vanessa Benzaken.
Bonne écoute et bon limoud.
Pourquoi il y a une nécessité aujourd'hui plus que n'importe quelle à n'importe quelle époque? Parce qu'il y a eu beaucoup de, on va dire, il y a eu beaucoup de mouvements qui se sont levés contre l'instauration de la discipline de l'autorité parentale. Il est vrai que c'était une réaction à des abus d'autorité dans certaines formes d'éducation avant. C'était une réaction à beaucoup de choses, en fait. Mais notre problème, c'est que à être tout le temps en réaction, on perd la ligne qui s'appelle le émet. On perd la ligne qui s'appelle la vérité. Puisque finalement, on essaie à droite, ça marche pas. Alors on part à gauche. À gauche toute, ça marche pas. Alors on dit, je vais à droite, à gauche, on sait plus. Et à la fin, même si la réaction, être en réaction, ça peut servir, parce que finalement, en face de tâtonner à droite et de tâtonner à gauche, on va, avec un peu d'espoir, finalement trouver la ligne de l'équilibre. Mais pas toujours ça se passe. Et c'est un petit peu ce qui se passe, finalement, dans le monde extérieur au monde de Torah. Le monde de Torah, lui, évidemment, on a le sroot et le privilège d'avoir reçu ce qui s'appelle ni plus ni moins que le mode d'emploi du monde. À Kadosh Baruch Hu, il a créé un monde et il a donné un mode d'emploi. Dans ce mode d'emploi, tout figure. L'être humain, comment il est, comment il fonctionne, comment il progresse pas, qu'est-ce qui est bon pour lui, qu'est-ce qui est pas bon pour lui, l'éducation, le couple, tout, absolument tout est codifié. Donc, c'est un référentiel qui est éternel, qui ne bouge jamais. Il est resté le même 6000 ans, enfin 5000 et quelques. Ça reste pareil, c'est le plan du monde. Istakel Beoraita ou Bara Alma, c'est pas juste que c'est après que le monde est arrivé, la Torah est arrivée, c'est le plan architectural du monde. Donc ça veut dire que c'est plus qu'un mode d'emploi, c'est carrément le. Comment on appelle ça chez les Kablan là le...
L'architecture.
Le plan de l'architecture, voilà, mamash. Istakel Beoraita ou Bara Alma, on dit, quand je vois qu'il a regardé la Torah, et puis c'était le plan de construction du monde. Donc on a cette chance que là-bas, les choses sont bien codifiées, bien ordonnées. Mais dans le monde à l'extérieur qui n'a pas cette chance, le travail se fait par tâtonnement. C'est-à-dire que si vous regardez finalement la progression du monde scientifique, c'est comme ça. Il tâtonne, non, c'est pas ça. Il tâtonne de l'autre côté, non, c'est pas ça. C'est vraiment à base de essai-erreur. Donc, quand on est dans la période où ils ont tenté à droite, on a les avantages et les inconvénients. Ils sont tout à droite. Après, je vais détailler plus. Hein. Quand ils passent complètement à gauche toutes, on a les inconvénients et les avantages de ça, et on n'a pas le émet. Il est vrai que dans une façon non-juive de voir l'autorité et la discipline, on avait affaire plus à de la dictature, du despotisme, de la soumission forcée, des abus de pouvoir qui étaient complètement anormaux. On est bien d'accord. Est-ce que c'est pour ça qu'il faut condamner dans sa globalité la notion d'autorité? Est-ce que c'est pour ça qu'il faut aller complètement à gauche et dire non, alors c'est pas bien l'autorité, c'est pas bien la discipline, ça nuit aux enfants, ça les empêche de se développer, ça les inhibe? Alors bien évidemment, comme vous savez très bien, à aujourd'hui, même le monde scientifique académique, il a déjà fait marche arrière de ça. Dans les années 60, alors, c'était les thèses qui ont prévalu, que la discipline, c'est quelque chose de négatif, l'autorité parentale, elle nuit au développement de l'enfant, et aujourd'hui, la psychologie postmoderne, évidemment, ne valide pas ces choses-là, et a fait un retour à, comment on appelle ça, 360 degrés, au minimum, en voyant les catastrophes qui sont ressorties de l'abstraction de la discipline. Ce sont des choses, évidemment, qui ont été essayées sur le terrain, dans des institutions, dans des écoles, aux États-Unis notamment, à Summerhill, où on a complètement enlevé tout ce qui est règles. Et on voit comment ça marche. Ça va être sûrement beaucoup mieux, les enfants ils vont être plus sympathiques, il y a plus de joie de vivre. Ça les déprime, cette autorité, ces règles et ces contraintes. Ça les frustre. No frustrate children. Il ne faut pas frustrer les enfants. Ouais. Ah là là, si c'était si simple. Résultat des courses, on a obtenu des individus asociaux, frustrés au possible, impossible de contrôler leurs humeurs et leurs états d'âme, difficulté à poursuivre un projet du début jusqu'à la fin. Je vous détaillerai ça un petit peu plus en détail. Et puis, plus modernement et plus nouvellement, problème de concentration. Écoute, écoute.
Le maître mot, il est interdit d'interdire.
Voilà. En 68, que j'étais pas née, je vous assure que j'étais pas née. Hein. Ils ont mis comme ça, il est interdit d'interdire. On n'interdit pas, c'est pas bien. L'interdiction elle-même n'est pas bien. Encore aujourd'hui, circulent de nombreuses thèses éducatives qui valident le fait qu'il faut annuler totalement la notion de sanction et de punition. Shita lelo onesh, ça s'appelle en hébreu. Shita, méthode sans punition. Certains posent la question, mais pourquoi punir? On peut éduquer sans punir. Encore une fois, on ne peut pas faire l'économie de la vérité avec des phrases qui font très jolies sur le papier. Et nous, on a un repère Baruch Hashem qui ne bouge pas, qui est ancré, c'est la Torah. Et là-bas, on a tous les équilibrages. On a tout ça oui, ça non. Et on va s'intéresser justement aux définitions que la Torah, elle propose de l'autorité et de la discipline. Et on va voir que selon le regard de la Torah sur ce qui s'appelle Samchout, l'autorité, on va voir que c'est très 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 loin de ce qui était proposé à ce qui existait à l'époque, de cette dictature, de plier les enfants, soumettre, tu lèves pas les yeux. Vous connaissez pas, vous. Donc toute cette façon de faire là, qui finalement n'a rien à voir avec ce qui s'appelle Samchout Horit, Beistaklut Toranit, selon une vision toranite. Mais je vous dis encore une fois, il y a eu des excès d'un côté, mais les excès d'avoir fait abstraction de la discipline, c'était une catastrophe encore bien plus grande.
Absolument.
Encore bien plus grande à Aminouli, et on en paye encore les pots cassés jusqu'à aujourd'hui. Et on a du mal à se libérer de ce problème-là. On va bien sûr voir en détail toutes les implications et tout ce qui ressort de tout ça. Il y a eu aussi des chitotes comme ça, des façons de faire de copain-copain. Et que, au contraire, il faut être copain-copain avec les enfants, il faut pas, c'est rasoir comme ça d'être le parent, après tout on peut être copain-copain. Et qu'est-ce qu'on a vu en général dans ce genre de configuration? Que les enfants ils deviennent autoritaires. C'est très drôle. Alors tu te dis, mais je comprends pas, on est copain-copain, en bonne compagnie, pourquoi ils deviennent autoritaires? Mais autoritaires, mamache. Pourquoi ils deviennent autoritaires? Je vous réponds. Parce qu'ils montrent aux parents ce qu'ils aimeraient qu'ils fassent. Vous voyez? Ils rappellent à leur bon souvenir que c'est ça dont ils ont besoin, une autorité. Donc ils deviennent autoritaires. Et ce qui est paradoxal, c'est que souvent on assiste à ce schéma d'enfants qui sont un petit tyran à la maison et dehors, à l'extérieur, à l'école, effacés. Manque de bitachon. Je dis, mais attends, je comprends pas, il a une double personnalité déjà à 5 ans! Non, c'est pas une double personnalité, c'est les deux faces d'une même pièce, c'est que ça va ensemble. Puisque vous allez voir qu'un enfant qui vit dans un endroit où il n'y a pas cette samchutorit, cette autorité parentale, il devient autoritaire à la maison pour inconsciemment montrer aux parents ce qu'il attend de lui et ce dont il a terriblement besoin, une autorité. Et d'autre côté, à l'extérieur, il est effacé, il a un bitachon atzmi faible, une assurance faible. Parce que finalement, si c'est lui le patron à la maison, ben il y a de quoi être effrayé de ce monde effrayant. S'il n'y a pas une samchutorit au-dessus de moi, s'il n'y a pas une autorité parentale au-dessus de moi qui me protège, qu'on peut se reposer sur elle, le monde est franchement effrayant pour un enfant. Même pour nous, des fois, vous ne trouvez pas, les gens, ils courent, ils sont tous comme des... Donc, a fortiori pour un enfant. C'est pour ça que on en arrive à ce qui a été proposé, je vous dis, c'est plus du tout d'actualité, mais dans les prémices de l'argumentation contre l'autorité et la discipline, ben finalement il s'est avéré que les arguments qui ont été présentés sont exactement, la réalité c'est exactement le contraire. Les arguments qui ont été présentés à l'époque, c'est que la discipline, l'autorité, nuit à l'exploitation des potentiels de l'enfant. Nous, on va voir que c'est à travers la discipline qu'on va donner à l'enfant de l'autodiscipline et que grâce à cette autodiscipline, il pourra exploiter ses potentiels mille fois mieux qu'un autre. Un autre argument avait été levé, que ça enlève la simchat chaim de l'enfant. Le fait qu'il y a des règles, ça enlève la simcha, la joie de l'enfant. On va voir que c'est exactement le contraire, parce que finalement la simcha, dans notre registre à nous, dans notre explication à nous, c'est pas à sauter et danser. Ça c'est ça sonne. La simcha, c'est la satisfaction. C'est la satisfaction d'avoir bien agi, d'avoir fait le bon choix, d'avoir eu la force de se surmonter. Et tout ça, ça demande quoi? De l'autodiscipline. Tous les arguments, en fait, qui ont été levés à l'époque, c'est très intéressant. Parce que c'est pas qu'ils sont faux, c'est qu'ils présentent exactement le contraire de la réalité. Et c'est ce qu'on va essayer de voir en détail, Bezrat Hashem. Alors, on va commencer par dire ce qu'elle n'est pas, cette discipline, avant de dire ce qu'elle est. Elle n'est pas un outil d'aménagement de mon confort domestique. C'est-à-dire que si les parents ils pensent qu'il faut mettre la discipline chez soi, pour que ça tourne bien chez soi, l'objectif est déjà faux. Ça tournera bien, ça, je peux vous le dire, ça tournera mille fois mieux quand il y en aura. Mais ce n'est pas ça ma recherche. Et vous allez me dire, mais ce n'est pas si important, c'est très 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 important de définir correctement mon objectif. Parce que quand je fais quelque chose, l'objectif que j'ai fixé à la base va teinter toute ma démarche du début jusqu'à la fin. Si par exemple, quelqu'un se met à encourager parce qu'il a appris dans une certaine technique qui n'est pas de chez nous, que pour s'insérer en société, il faut apprendre à complimenter. Vous savez, ça existe, hein, je n'invente rien. Mais c'est un système très américain comme ça. Qu'il faut apprendre à complimenter, etc. Et quel est donc le but? Se faire une bonne place en société. Bon, c'est un objectif très médiocre pour quelqu'un qui a une optique juive plus élevée. Faire encourager et dire des mots et des compliments, c'est pour donner du bien à l'autre. C'est pas pour me construire sur son compte. D'accord? Donc, vous voyez que finalement, la motivation que j'ai derrière un acte, elle est aussi importante que l'acte lui-même. Donc, dans la discipline, si je n'ai pas correctement défini mon objectif, ce que je ferai sera teinté de l'objectif qui est faux. Si l'objectif de la discipline, de mettre la discipline, c'est mon confort domestique, c'est que les enfants, ils se tiennent un petit peu et qu'il y en a marre, ça va rester très très superficiel. D'accord? De même, si je veux, dans l'éducation avec les enfants, apprendre des techniques pour survivre dans le monde des enfants, c'est pareil, c'est très médiocre par rapport à un objectif élevé qui s'appelle le chinour. Le chinour, ça va être construire les enfants, leur donner, et en même temps, m'élever moi. Mais dans des techniques qui sont aujourd'hui, qui ont une place, c'est plutôt d'apprendre à décrypter l'enfant. Qu'est-ce qu'il recherche? Qu'est-ce qu'il veut en fait quand il agit comme ci ou comme ça? C'est un petit peu comme donner aux parents une sorte de des outils pour mieux le cerner, le décrypter, pour mieux le manipuler. Je dis ça un peu durement, mais c'est un peu ça. Et donc c'est pour apprendre à survivre mieux dans le monde des enfants. Alors peut-être ça marchera mieux au niveau du tifkoud. Peut-être que c'est des outils qui peuvent aider au niveau de que ça va mieux rouler au niveau de l'organisation dans la maison. Mais c'est sur le compte du développement nafshi de l'enfant. Aller chercher pourquoi il fait ceci ou cela, au lieu d'aller aller chercher quel est son but quand il fait ceci ou cela, au lieu de s'intéresser à savoir pourquoi il fait ça, c'est faire une pirouette très habile qui sert les intérêts de personne et sûrement pas de l'enfant. Donc, on est en train de dire que c'est important de savoir pourquoi on le fait. Pourquoi elle sert à quoi cette discipline? C'est pas non plus la discipline une excuse pour donner libre cours au mouvement d'humeur du parent. Ça, je vous le dis à vous, bien sûr, vous ne vous sentez pas concerné, évidemment. Mais il y a des endroits où les parents utilisent la discipline pour trouver une bonne excuse. Ben, c'est important, il faut les discipliner. Ah, pour éclater sur les enfants. Ben, c'est pas de la discipline, ça, c'est de l'antidiscipline. D'accord? C'est pas non plus un moyen de dominer l'enfant, ni d'affirmer notre supériorité sur lui. Parce que nous ne sommes pas supérieurs à lui. Dans un regard juif, le parent a un tafkid, comment on appelle ça, une mission, d'éduquer l'enfant et d'être une autorité pour lui, pour son bien à lui. Pas pour moi me faire plaisir que je suis une autorité et me construire mon ego sur le compte de l'enfant. C'est des inepties, ça. D'accord ? Ça n'a jamais été une chose pareille. Et par ailleurs, la discipline, si elle va habituer l'enfant à obéir, au sens juif, la discipline ne va jamais ni dominer ni soumettre de force l'enfant. Soumettre de force un enfant, c'est échouer dans la discipline. D'accord ? Il y a des fois où vous verrez qu'on a besoin, oui, d'utiliser une certaine fermeté, mais c'est une forme d'échec. Normalement, on ne devrait même pas en arriver là. On va habituer les enfants à obéir, pour que de leur propre gré, ils vont venir à obéir. Et vous devez vous dire, mais elle a dû rêver sept rêves avant de venir. Qui veulent d'eux-mêmes obéir. Attends déjà qu'ils obéissent, qu'est-ce qu'ils viennent d'eux-mêmes. Et moi, je vous dis, vous allez voir, Bezrat Hashem, que c'est vers ça qu'on veut aller. On veut construire une avira, une atmosphère, un type de relationnel avec l'enfant qui va l'inviter à obéir par lui-même. Pas 100% des cas. Parce que 100% des cas, comme il a dit Rabbi Jacobson, un enfant qui obéit à 100% des demandes est un enfant à classer dans le domaine pathologique. D'accord ? Donc, ce n'est pas ça qu'on veut. Baruch HaShem, on ne veut pas des robots, oui. Nous, on ne veut pas non plus casser son l'ego de l'enfant, parce qu'il faut le plier, tu sais, il faut les mettre au pas, il faut les plier, comme c'est le discours de l'an 40, là. Ouais. Même ça, c'est, ça n'a rien à voir avec nous. Je veux dire, on a subi beaucoup de pollution de l'extérieur. Là, je suis venue, Bezrat HaShem, pour faire le tri et retrouver, Bezrat HaShem, notre istaklut toranit. Notre façon de voir toranit sur ce sujet qui s'appelle Mishmat, qui s'appelle la discipline. Et vous allez voir à quel point c'est éloigné de tas de bêtises, finalement, qui sont ou trop dures ou trop mollassons. Donc nous, notre idée, c'est pas de casser l'ego de l'enfant, au contraire, chas vechalila, d'avoir réussi une chose pareille à casser l'ego d'un enfant, comme il dit Rav Jacobson, il dit nefesh ibatro chorin, c'est-à-dire que le nefesh de l'homme bat chorin, vous savez bien ça, est libre, par définition, par essence, il est libre, et donc même si tu peux echomrim, contraindre quelqu'un à faire quelque chose, il y a un endroit où tu ne peux pas toucher, c'est son nefesh. Tu ne pourras jamais l'obliger à accepter intérieurement ce que tu dis. Tu ne peux pas toucher là-bas. Les Juifs qui ont souffert dans tellement de situations, leur corps, effectivement, ils les ont brisés. Mais dedans, le nefesh, il est resté libre. Mamash libre. Parce qu'ici, tu ne peux pas toucher. Nefesh, il bat chorin. Et si vraiment quelqu'un, Khalil Avechas, il aurait réussi à même être pogué à là-bas, à même affecter ce qui s'appelle la force de révolte, si quelqu'un il aurait réussi à briser ça chez l'enfant, Rabbi Jacobson dit, c'est possible que cet enfant il est exempté des mitzvot, parce que pour servir à Kadosh Baruch Hu, il a besoin du Koach HaMerit, il a besoin de la force de révolte. Vous allez me dire, mais non, au contraire, pour servir à Kadosh Baruch Hu, il doit se soumettre. Oui, mais il a besoin de la force de révolte dans certaines situations. Il a besoin de cette force de révolte pour se révolter contre son Yetzer Hara. Il a besoin de la force de révolte pour se révolter contre le mensonge, contre l'injustice. Autrement, qui ça va être ? Il y a une serpillère ? Hasvei Shalom. Donc le but, ça ne va jamais être de dominer ou de plier de force ou de soumettre un enfant. Ce n'est pas un but juif, Pachout. C'est pas juif. D'un autre côté, faire copain-copain, ça non plus, ça ne colle pas avec nous. Parce que les parents sont, oui, la Samchout. Abba ve'ima mena'alim et abayt, papa et maman, ils dirigent la maison, c'est une valeur juive. Et sur ça, on n'est pas mévater, on ne consente pas du tout sur ça. D'accord ? Laisser l'enfant faire comme il le sent et comme il veut, ça non plus, c'est pas de chez nous. Il y a maman et papa qui donnent des injonctions. Et l'enfant, il est supposé faire ce qu'il faut. De lui-même. On va voir comment on peut essayer d'arriver à ça, mais ils ont attaché.
Le cours est terminé, nous espérons que le cours a été apprécié. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Retrouvez également sur le site ToraBox, www.torah-box.com, trois enseignements de judaïsme, par des rabbanim différents, sur d'autres sujets variés, et sous toutes les formes, audio, vidéo, ou sous forme d'articles. À bientôt.